Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Jason Ballon Rond, le podcast 100% soccer, où on parle de football, comme dirait plusieurs amateurs. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode, plus d'un mois, je pense bien. Et on est très heureux d'être de retour, donc à l'animation, moi-même, Olivier Prince-Groslot, en compagnie de Thomas Lafond et Doualé Ibrahim. Comment ça va, les gars?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, gars.
De parler de soccer, ça me manquait dans mon été. Là, on a besoin de sortir ça de nous. Puis très content de le faire avec vous, les gars.
Yes.
Fait que programme extrêmement chargé, honnêtement, parce qu'on n'a pas été là pendant longtemps. Bon, il y a le mercato depuis le mois de juillet qui est en branle. Sinon, le CF Montréal éliminé en Ligue Scope. La Ligue Scope, on peut parler de cette compétition-là aussi. On va le faire durant cet épisode. La Coupe du Monde féminine, bien entendu. Et aussi, un petit preview peut-être des saisons qui vont démarrer bientôt en Europe. Ça s'en vient vite. Mais commençons par le CF Montréal, les gars. Mm-hmm. Bon, premièrement, échange de Rudy Camacho il y a quelques jours au Crew de Columbus. Donc, Camacho qui rejoint Wilfried Nancy pour un montant d'allocation de 400 000. Vous pensez quoi de ce move-là? On sait qu'on a Alvarez, un jeune de 19 ans, qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines probablement. Mais Camacho, qui était le vétéran en défense centrale du côté de Montréal, qui était là depuis 2018, je trouve que, personnellement, ce transfert-là, cet échange-là, je ne comprends pas pourquoi il arrive à ce moment-ci de la saison alors qu'on essaie d'aller en série et non pas durant la saison morte. Fait que moi, c'est mon opinion. Qu'en pensez-vous?
Ben, je suis d'accord, mais en même temps, ça faisait quelques temps qu'il y avait des rumeurs comme quoi qui seraient malheureux, mais content au CF, puis qui cherchait un changement d'air. Puis on a quand même été bon sous les ordres de Nancy. Donc, cette réunion-là, c'est peut-être pour le mieux pour lui. Puis, si ça affectait le collectif de l'équipe, tant mieux également, tu sais.
Mais à quel point est-ce qu'il était malheureux, puis il voulait absolument partir cette saison? J'avais pas vu ça passer comme quoi il voulait partir vraiment obligatoirement cette saison. Puis moi, je pense qu'il a amené beaucoup de stabilité en défense centrale, Camacho. Là, Alvarez, il n'arrive pas tout de suite. Puis quand il va arriver, est-ce qu'il va être vraiment prêt à être un titulaire? Parce que là, on a Campbell, Corbeau, puis Waterman. S'il y en a un des trois qui se blesse, on est un peu dans la sauce, comme on dirait. Fait que, bref, Dou, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, je pense que je suis à peu près du même avis que vous, les boys. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'était le timing, comme tu as mentionné, Ali, le fait que ça arrive en plein milieu de la saison, voire dépasser le milieu de la saison. T'es, on rentre vers le dernier chemin vers la fin de la saison. Puis déjà qu'en début de saison, ils avaient changé Cameron Miller pour aller chercher Bryce Duke et Alistair. Lester, qui... au final, ça a quand même été une bonne transaction pour le CF, mais déjà que tu perds quand même l'heure et en plus, tu décides d'échanger Rudy Camacho contre un montant d'argent qui est correct, mais je m'attendais peut-être un peu plus, peut-être un 100 000 ou un 200 000 de plus pour Camacho, ça aurait pu être possible, je pense, mais c'est vraiment le timing qui me surprend. On se retrouve, comme je viens de mentionner, il y a la fin de saison qui arrive tranquillement, puis écoute, tu te retrouves avec une défense à 3. Donc, ça, c'est un risque à prendre. Mais écoute, en cas de blessure, moi, c'est vraiment là que je me pose la question. Tu sais, la profondeur, tu en as toujours besoin, peu importe l'équipe. Puis si là tu viens de perdre un morceau quand même assez important de ta défense centrale, puis tu devras te débrouiller avec Waterman qui devra prendre tout sous ses épaules. Moi, j'aime bien quand même le jeu de Campbell depuis le début de la saison. Campbell est vraiment... sous-estimé à mon avis et évidemment hâte de voir aussi Alvarez qui arrive dans je crois quelques semaines comme tu l'as mentionné. Fait que moi c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir, c'est comment ils vont pallier l'absence plus le départ de Rudy Camacho et hâte de voir les nouvelles responsabilités que Waterman ou Campbell ou les deux vont prendre
dans cette situation dans tout ça là.
En même temps, le TCF ne joue pas avant le 20 août.
Bon point,
avec l'élimination de la Ligue Cup. Donc, ça va être ça à Alvarez d'arriver et de prendre ses droits avec le club au moins. Puis aussi, il reste encore quoi? Un mois à peu près de mercato. Donc, ils peuvent encore très bien chercher un autre défenseur si jamais ils sentent besoin de le faire.
Mm-hmm. Moi, c'est ça que j'espère. Là. J'espère qu'on est allé chercher de l'argent dans l'échange de Camacho. On a obtenu beaucoup d'argent et la saison morte passée avec tous les départs de Johnston, Mihailovic, Chekoni, etc. Donc, j'espère qu'on va faire une autre addition pour essayer de lutter et de se faire une place en série parce que je pense que c'est ça que les bonnes équipes font habituellement pour essayer d'aller rejoindre, dépasser cette fameuse ligne rouge. Puis, ben, Tom, tu as parlé de puis Alvarez aussi, dernier point sur Alvarez. 19 ans, a presque pas joué à Pachuca, je crois qu'il jouait. Quasiment pas joué. Donc, il manque d'expérience, pas beaucoup de minutes de jeu dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment pas sûr qu'il va s'intégrer facilement puis fluidement au collectif montréalais. Mais on va voir ça. On va voir en temps et lieu. Le 20 août, donc, contre le Toronto FC, parce que, tu l'as dit, Tom, le CF Montréal a été éliminé en Leagues Cup. Après avoir échappé un 3 points contre Pumas et ensuite défaite Crève-Cœur contre DC United, les deux au stade de Saputo. Au stade Saputo, c'était pas compliqué, c'est tout simplement un manque de finition de ces occasions de marquer. Tom et moi, on était au stade. Mais je veux t'en entendre. Je veux avoir ton opinion là-dessus, d'ailleurs, Tom, sur ce match-là. Hein, entre
ben,
DC United
et le CF. Ben écoute, je suis en accord avec toi. D'ailleurs, on vous invite à lire un très bon article de J sur la rencontre. Mais oui, gros manque du CF dans le dernier tiers. L'arbitrage aussi qui n'a pas été très en faveur du CF Montréal, notamment sur la dernière action. Alors que Pierre, pour ceux qui n'ont pas regardé la game ou qui ne s'en rappellent plus, le CF qui attaquait sans cesse le filet du CC United et l'arbitre qui a pris une faute contre le CF juste en dehors de la surface de réparation. Ça aurait pu mener une belle dernière attaque du CF, mais finalement, ça n'a pas été... Ça n'a pas été le cas. C'est CF qui s'incline 1-0, qui a quand même été assez solide dans la rencontre, dans l'ensemble. Mm-hmm. Le seul but du DC United, c'est sur une erreur de soigneur qui a mal joué un ballon dans la tête. Donc c'est honnêtement quand même une bonne performance du CF Montréal en Leagues Cup dans l'ensemble.
Mm-hmm. Ouais, ben complètement d'accord avec ça. Le match contre Pumas. Quasiment tout le long du match, c'était une bonne performance de Montréal aussi. On s'est écroulé en fin de match aussi. Ça fait mal, un autre point perdu. Mm-hmm. Puis contre DC, écoute, il y a eu l'arbitrage, mais on aurait dû mettre au moins un but. Puis avec ça, on aurait été qualifié. On aurait-tu été qualifié?
Je pense qu'une victoire du DC United qualifie automatiquement CF. Peu importe la façon.
Ouais, contre Pumas. Mais si nous, on était allé chercher un point contre DC United, je sais pas si on...
Ah ouais, non, CF serait qualifié. En fait, la défaite qui a vraiment fait de mal, c'est pas celle de DC United, c'est le match nul contre Pumas.
Le match nul qu'on a obtenu deux points.
Pas le match nul, mais la victoire au tour de barrage. Parce qu'ils ont perdu un point important. Parce que c'est pas compliqué. Ouais. S'ils avaient gagné contre Pumas en temps réglementaire, le CF passait. Parce que. Malgré la défaite. Non, mais je parle aussi avec la défaite de DC United. Parce que les deux seraient ramassés avec le même nombre de points. Puis le CF avec le différentiel aurait passé au-dessus
le premier critère de prix d'égalité, c'était, je pense, c'était qui tu battais.
Qui tu battais?
Je pense que le Pumas aurait eu... On aurait tous été à 3 points, en fait, à ce moment-là. Ça aurait été le différentiel, probablement, oui.
Ouais, puis c'est ça. Puis au différentiel, le CF aurait passé normalement au-dessus de DC United, mais malheureusement, écoute... Cette défaite-là, surtout moi, ce que j'ai trouvé plus pénible, c'était vraiment la victoire au tir au but qui aurait pu être évitée largement si ça n'avait pas été d'un moment de flottement CF en fait de rencontre. Là. Mm-hmm. Ça, moi, je trouve que c'est celle-là qui a vraiment fait de plus mal au CF que la défaite contre DC United. Oui, ça fait mal, une défaite contre DC United. Mais t'es, au final, tu as manqué d'opportunisme. Tu as accordé un but qui aurait pu être évité sur une erreur de Chouanière.
Ouais.
Mais pour vrai, quand tu mènes 2-0, que tu contrôles le match et que tu t'es marqué deux buts à la 88e minute et la 91e minute dans les arrêts de jeu, ça, c'est, pour moi, c'est impardonnable. Ça, c'est vraiment un manque... comment je pourrais dire? Un manque de concentration de la part du CF qui est vraiment coûté des points. C'est que, moi, je pense... En tout cas, mon avis personnel, c'est ça. Mais reste que, pour finir là-dessus... Je pense que, tu sais, je suis même avec vous, je crois que le CF s'est vraiment très bien débrouillé en Lexicon. Je trouve que pour l'effectif qu'ils ont cette saison, je trouve que CF Montréal s'est très bien débrouillé dans l'ensemble en Lexicon. Puis écoute, c'est quand même rassurant de voir qu'ils sont capables de compétitionner contre une équipe mexicaine et également contre DC United, qui est une équipe qui est dans la même, association qu'eux.
Très d'accord avec toi là-dessus, le CF aurait dû passer au prochain tour selon leur performance, mais donc, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas été capables de closer au bon moment, puis des petits détails qui leur ont fait très mal. Avant qu'on passe sur la Lexicop et M. Messi, dans la nouvelle pour le CF Montréal, Jonathan Sirois, qui prolonge son contrat il y a quelques jours, trois saisons avec une année d'option, donc jusqu'en 2026 et une option pour 2027. Pour moi, c'est... on ne sait même pas le montant, mais pour moi, c'est très bon move. C'était la chose à faire pour le CF Montréal. Sirois, qui est le gardien d'avenir avec ses performances dans cette saison, pour moi, pour le CF Montréal. Est-ce que vous partagez mon avis, Tom?
Ben écoute, c'est amplement mérité. Juste avec ses performances depuis le début de la saison, puis c'est arrivé à pied levé avec la blessure de Partey dans le vrai match. Ça a été un des excellents matchs, tu sais. C'est en fait une des grandes raisons pourquoi le CF se bat pour les séries en ce moment, au lieu de couper dans le fin fond du classement, c'est Jonathan Sirois. Donc, c'est vraiment mérité comme contrat, un très beau gage de confiance pour lui.
Mm-hmm. Puis aussi, moi je vais rajouter quelque chose par rapport à ça aussi, c'est le fait que Jonathan Sirois a le potentiel d'être un super de bon ambassadeur pour le Québec.
Ouais.
Tu vois, un joueur de l'Académie, un gars de Varennes. Varennes, c'est pas si loin de chez moi, là, Sarel. Là, c'est vraiment pas loin. Là. Puis tu vois, un gars de Varennes qui a à peu près du même âge que moi, qui non seulement réussi se frayer un chemin dans 11 partants, mais en plus, être possiblement un meilleur joueur de CF Montréal, ça lance un super de beau message pour le soccer au Québec. Puis écoute, ça peut être un super de bon ambassadeur. Donc, c'est la meilleure des choses que le CF a fait. En donnant cette prolongation de contrôle à Jonathan Sirois, qui pour moi est le joueur le plus utile de CF Montréal depuis le début de la saison.
Oui, il suit les traces de Piet, de Crépeau, de Chouanière, bref. Tout à fait raison là-dessus, très bon ambassadeur. Puis contrairement à mettons Piet, qui est allé jouer en Europe, il a fait son parcours au Québec tout le long, si je ne me trompe pas, Sirois. Donc, c'est possible, les jeunes.
Un joueur de l'Académie. Québec, hein.
Bon, là, c'est possible de vous développer uniquement au Québec. Donc, voilà, puis Sirois, là, juste pour conclure là-dessus, des arrêts clés à chaque match, sans exception. Pour moi, c'est le meilleur joueur du CF Montréal cette année, avec Mathieu Chouanière, mais là, son erreur a un peu coûté la Ligue Cup, malheureusement. Lui qui connaît une très bonne saison, mais c'est pour ça que je donnerais le titre de meilleur joueur de l'équipe cette saison, jusqu'à maintenant, à Jonathan Sirois. Bon, la Ligue Cup, les gars, cette compétition-là, comment est-ce que vous la trouvez? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne idée d'instaurer une compétition entre des équipes américaines et européennes avec un format style Coupe du Monde. Et ça attire le public qui est intéressé par ça, on l'a vu. En plus, tu as Messi qui arrive au moment que la Ligue Cup commence. C'est sûr que niveau marketing, c'est excellent pour la MLS et la Liga MX. Donc, moi, je suis très pour cette compétition-là. Puis, à date, c'est un gros win, un gros plus. D'où, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, c'est pas la première édition de la Ligue Cup. C'est la troisième, mais c'est la première fois que toutes les équipes de la Liga MX, la première ligue de division au Mexique et la MLS, toutes les équipes s'affrontent. Fait que ça, déjà, ça, c'est une histoire de bonne nouvelle parce que ça veut dire que, écoute, au final, c'est une compétition entre toutes les équipes, toutes les équipes de Division 1 en Amérique du Nord qui s'affrontent. Ça, c'est extraordinaire. Puis en plus, comme tu viens de mentionner, le fait que tu as l'arrivée de possiblement écoute, le meilleur joueur vivant de l'histoire du football qui est en ce moment à Miami. Ça, déjà là, c'est absolument extraordinaire. Écoute, pour l'instant, moi, je suis pour à 100% pour la League's Cup. Je trouve que c'est rafraîchissant pour la MLS. Puis je trouve que ce format-là ressemble de plus en plus à celui de l'Europe. Moi, c'est ça que je trouve.
Ouais, ben, on en parlait à retour en force, moi et Doux. Puis effectivement, c'est un peu la MLS qui prend le format d'Europe. Puis ça fait différent de ce qu'on voit en Amérique du Nord, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la NBA ou même dans la MLB. Là. Même que les ligues sportives nord-américaines commencent à prendre un peu quelques éléments de ça. On l'a vu avec la NBA qui prend son tournoi de pendant la saison, qui va commencer la saison prochaine. Je pense que c'est le fun. Ça amène quelque chose de différent qu'on n'est pas habitué de voir. Puis en plus, les équipes mexicaines, je ne sais pas si remarqué le match contre Pumas. Je pense que je n'ai pas vu un match UCF avec autant d'émotion, autant d'intensité depuis les séries contre Toronto. Donc ça amène cette dimension-là de rivalité qu'on ne voit pas beaucoup en MLS, à part dans les rivalités régionales, comme contre Toronto ou El Trafico. Sinon, c'est ça.
Le derby floridien qu'on a vu hier.
Aussi, ouais. Oui, ça l'a brassé un peu, d'ailleurs. C'est ce match-là. On revenait un petit plus tard, mais oui, ça cette dimension de rivalité, je pense que ça peut juste permettre à la Ligue de prendre l'expansion, mais de gagner en notoriété également.
Oui, puis en ampleur, puis en partisans aussi. Là. Mm-hmm. Puis ouais, ça, les nouveaux partisans avec Messi, ça l'aide beaucoup, mais sautons sur ce sujet-là d'ailleurs, mais l'arrivée de Messi qui commençait faisait ses débuts en League's Cup, 3 matchs joués, 2 départs, 5 buts, 1 passe décisive. Il a un but ou une passe à chaque 34 minutes de jeu, ce qui est des statistiques exceptionnelles, mais c'est un peu à ce qu'on s'attendait de Messi en arrivant à MLS, honnêtement. Et puis, il faut mentionner aussi Sergio Busquets, très important dans cet effectif de Miami. Jordi Alba qui a fait ses premières minutes hier. Mm-hmm. Comment vous voyez ça, cette arrivée-là de Messi à Miami? Et là, ils ont gagné en 16e de finale. Ils s'en vont donc en 8e de finale. Je ne sais pas exactement qui ils vont affronter, mais où est-ce que vous voyez Miami se rendre dans cette compétition-là?
Ils vont affronter Dallas.
Dallas, tu as raison, Dallas. Voilà. Fait que, ouais.
Le reste de la MLS n'a aucune chance. C'est pas compliqué. Messi, même en fin de carrière, est meilleur que 90% des joueurs sur la semaine.
Ah, 99, c'est pas compliqué. 99, c'est le meilleur joueur de la Ligue. C'est pas compliqué,
même
c'est
le
meilleur.
MLS, écoute, je serais pas surpris que l'Inter Miami se faufile jusqu'en série sous le tour de Messi.
Ok, là, tu parles de les séries de la MLS.
Ouais, mais je parle même en Ligue Cup. Je serais même pas surpris qui perd même pas, qui reste invaincu en fait jusqu'à la fin de la saison. Avoir allé Messi, l'impact qu'il a eu sur cette équipe-là, il carry l'équipe à lui tout seul. Il n'a même pas besoin de Busquets, c'est là-bas. Là. Donc ça va être vraiment. La MLS, aucune chance. J'ai pas d'autres choses à dire que ça. Là.
Fait que toi, là, on s'écarte un peu de la Ligue Cup, on y reviendra, mais toi, tu penses que Miami va être capable de se rendre en séries éliminatoires malgré qu'ils sont derniers de la MLS présentement?
Aucun doute.
Oh, ça, c'est bold statement.
C'est quoi? Je suis Tom là-dessus. Je pense que le temps Miami peut se qualifier en séries éliminatoires juste sur le fait que Lionel Messi, en ce moment, à ses 3 premiers matchs, il brûle tout le monde. Puis, tu sais, moi, je trouve surtout que le match contre l'Atlanta. Atlanta United, ça, ce match-là, ça a lancé un message clair au reste de la MLS que Messi a peut-être 36 ans, mais reste que Messi est sur une autre planète, là. C'est pas compliqué. Là. Genre, ça a l'air simple à le voir jouer. Là. C'est ça que je trouve incroyable. Encore à son âge, il fait des choses absolument incroyables sur le terrain. Puis, tu sais, on sait, se voit que Messi peut encore facilement jouer en Europe. Là. C'est juste que le gars, tu sais, il n'y a plus rien à prouver, fait qu'il vient jouer à MLS. Puis écoute, c'est une excellente nouvelle pour le soccer nord-américain. peut-être qu'ils vont changer en fin de nom, ils vont commencer à dire football au lieu de soccer, ça ce serait la meilleure des nouvelles, mais bref, il faudrait trop rêver. À un moment donné, je ne veux pas continuer à rêver de même, mais bref, c'est incroyable de voir Lionel Messi en Amérique du Nord. C'est un privilège de voir un joueur de cette rampe-là jouer dans la même ligue que le CF, dans la même compétition que le CF, s'ils ne sont pas dans l'X-Cup. C'est quand même assez extraordinaire. Mais ouais, je suis Thomas. Je pense aussi que Nathan Mamy peut se qualifier pour les séries éliminatoires à MLS. Moi, je pense que c'est possible. Si on regarde le nombre de points, c'est si pire que ça.
Check, j'ai le classement devant moi. Là, fait que mathématiquement, là, l'Inter Miami est à 18 points. La 9e place, donc les qualifications pour les playoffs, c'est DC United qui est là présentement à 30 points. C'est 12 points de différence et il reste 12 matchs à jouer à Miami. Donc, si tu regardes ça, tu es capable sur les 12 matchs d'aller chercher 8-9 victoires. Tu donnes un bon 24-27 points. C'est possible si les équipes
en bas. Ils ont deux matchs en main aussi sur DC United.
Ils ont deux matchs en main aussi. Donc, c'est possible si les équipes en bas échappent. Mais 8-9 victoires, c'est pas chose faite quand même.
Non, c'est sûr.
Mais écoutez, le scénario parfait serait le CF qui termine 8e, l'Inter Miami qui termine 9e, et match est Messi contre CF à Montréal. Les billets vont partir en 30 secondes.
Ah, moi je vous annonce.
C'est aller-retour, ça, ou c'est juste un match?
Je pense que c'est juste un match de barrage.
En tout cas, si
c'est
je sais où je vais.
Ben, moi aussi, on va tout être là, les gars. Je veux pas être méchant, mais on va tout être là. Mais bref, mais ça, écoute, les gars, je vais mettre une petite parenthèse par rapport à ça. Hey, ça quand je vois la surface. Je vais répéter ce que je veux dire. Bref, quand je vois l'arrivée de Messi, ça me fait rappeler l'arrivée de Drogba quand il est venu à Montréal en 2015. Puis ça me fait mal parce qu'on se rend compte en ce moment que Montréal a raté une grosse opportunité marketing de mettre cette équipe-là sur la map et d'aller chercher des joueurs internationaux. C'est ça qui est triste. Parce que là, en ce moment, on voit qu'est-ce qui se passe à Miami. T'as Messi qui arrive, t'as Busquets, t'as Jordi Alba, t'as quand même des joueurs hyper importants pour l'histoire de leur pays et l'histoire également de soccer en général. Puis, tu vas voir à quel point ça va changer cette formation-là, puis ça va changer la MLS, puis il y a des équipes qui vont être capables de profiter de ça. Puis malheureusement, CF n'a pas réussi à profiter de Drogba, man. C'est triste.
Je pense que ce qui handicape le CF aussi, c'est le français, tu sais.
Attends, moi, je pense qu'il handicape le CF, c'est l'argent.
C'est l'argent,
c'est Miami. Miami a David Beckham comme propriétaire, a d'autres investisseurs. Montréal, c'est M. Saputo, puis la famille Saputo, puis that's it.
T'sais, surtout, la ville de Miami est beaucoup plus attrayante que Montréal, on ne se cachera pas.
Ben, tu sais, on a été chanceux que Drogba soit attiré par Montréal, puis que lui, qui est un francophone, tu sais. Fait que ça l'a aidé grandement. Mais là, tu pourras pas. Ça va être très difficile, du moins, de faire venir des grandes vedettes du football international à Montréal, parce que non seulement tu peux pas les payer très cher, on n'a pas l'argent que Miami a. Et, en fait, il y a un certain plafond salarial, mais il y a tout un enjeu de joueurs désignés également. Puis de tout le deal que Miami a fait avec Messi au niveau des droits d'image, puis de possibilité d'avoir une franchise MLS plus tard, on n'a pas les moyens d'offrir ça vraiment à Montréal. Donc, c'est l'argent. Oui, il y a le français. Là, puis oui,
Non. Moi, je pense qu'au contraire, je pense que le français est une clé. Je pense que c'est le contraire.
Il faut le rentrer dans notre identité aussi, je pense. Je pense que ça fait partie de notre identité. Il faut en être fier.
Non, mais c'est une clé parce que ça va attirer le nom. Au contraire, moi, je trouve que il y a plusieurs joueurs francophones là, en Europe. Là, puis je trouve que c'est. Puis, tu sais, dites-vous que Montréal, c'est le seul club francophone à MLS. Donc, moi, au contraire, je pense que c'est un plus. C'est vraiment, comme Ali vient de mentionner, c'est le côté monétaire que. Écoute, à un moment donné, quand t'as pas de cash, t'as pas de cash.
Monsieur Saputo, il a beau être un riche homme d'affaires, il a pas les moyens ont d'autres franchises MLS.
C'est pas David Beckham, malheureusement.
Ouais, puis Beckham n'est pas seul, il y a d'autres investisseurs avec lui là, à Miami. Là, fait que, bref. Où on était donc. Ah, c'est ça. Mais bon, Miami puis Messi en MLS ont battu Cruz Azul avec un coup franc vainqueur de Messi en fin de rencontre. Ça, c'était le scénario idéal. Tu ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario que Messi qui marque son coup franc à ses premières minutes en MLS pour donner la victoire à Miami. Ensuite, Un autre match exceptionnel de sa part avec deux buts, une passe, c'était contre Atlanta dans une victoire de 4-0. Et hier, Marc, c'était... Qu'est-ce qu'il a fait? Deux buts hier, c'est bien ça?
Deux buts,
mais
il avait marqué
un
tour de chapeau. Il a donné à Joseph Martinez qui
avait obtenu la faute puis qui n'avait pas marqué depuis quelques matchs. Donc, c'est un beau geste de Messi à ce côté-là. Puis, honnêtement, la faute, ça n'en était pas une tant qu'à moi. Je ne sais pas si tu l'avais vu.
Ouais, c'était pas tant de faute, mais regarde, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est l'effet Messi, hein?
Ouais. Il y a eu un carton jaune, Messi, hier.
C'est vrai. Mais ça a brassé dans cette rencontre-là hier.
Derby Floridien.
Moi, j'aime ça. Moi, j'adore. Mais, honnêtement, ça vient tellement rajouter de la passion puis une visibilité monstre sur la MLS. Écoute, on va en parler un peu plus tard, là, mais c'est à peu près ce qui arrive aussi du côté de l'Arabie Saoudite ici. Mais c'est
intéressant ce que tu apportes. Mais Tom, tu allais dire quelque chose?
Mais oui, Messi est rendu à 5 buts 2 passes. J'ai juste dit ça.
C'est 5 buts 2 passes, je pense.
5 buts 2 passes ici, ouais.
Je pense qu'il y a une passe décisive que c'était comme secondary assist.
C'est 5 buts. Il a raison, Ali. C'est 5 buts, une passe décisive.
Puis la deuxième passe, c'était une passe MLS parce que tu comptes genre deux passes décisives en MLS.
Ah, OK. Tu vois ça?
Ça, je comprends pas. Ça,
c'est épais. Là, genre, ça a toujours été une passe décisive au soccer. Là.
Mais bref. On n'est pas au hockey, là, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat.
Mais quoique parfois, la première passe peut être la plus importante d'un jeu. Là. Ça arrive des fois, mais bref. Mm-hmm. Une passe ici, c'est la dernière passe. Là.
Mais le point, les gars, c'est que Lionel Messi n'a pas encore joué un match à MLS. Tout ça, c'est la League Cup.
Ouais.
C'est ça qui est fou.
Il n'en jouera pas avant fin août. Là.
Ouais, c'est ça. Il n'en jouera pas. Puis aussi, ça aussi, c'est un autre point que je pense qu'on doit, je pense que je vais l'amener en ce moment. Là. Mais tu sais, Lionel Messi, il y a eu des rumeurs qui disent qu'il n'aimerait pas ça, qu'il ne veut pas jouer sur du terrain synthétique. Il y a encore 7 stades à l'heure actuelle à MLS où qu'ils utilisent le terrain synthétique.
Mm-hmm.
À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Des joueurs, si tu vas attirer des joueurs de renommée mondiale, en Europe, ça ne joue pas sur du terrain synthétique, c'est sur du vrai gazon. Donc,
mais en même temps, ces stades-là, par exemple, à Charlotte, c'est des stades NFL.
C'est ça, je m'en disais.
Ils sont propriétaires du stade.
C'est ça.
Ou tu es à New York, un stade MLB.
Ouais, c'est ça. Le Yankee Stadium. Stadium, je m'excuse, c'est un stade de baseball, c'est pas un stade de soccer. Ou aussi, le Gillette Stadium, le stade des Patriots de Nouvelle-Angleterre, que c'est les.
Pour c'est les
Revolution.
Ouais, Revolution.
De Nouvelle-Angleterre. Mais bref, ça, c'est.
Puis Charlotte, en passant, c'est le premier match de Miami en MLS. Ça va être contre Charlotte, si je ne me trompe pas. Là.
Ouais, puis ça se peut que Messi ne soit même pas là parce qu'il ne veut pas juste
sur le stade. Non, c'est à domicile, par contre.
Ah, c'est à domicile, ok, bon, ça l'aide.
Ah, ok, c'est ça, quand
même. Mais tu sais, c'est ça, on parlait de remonter au classement en MLS. Si dans les 12 matchs, il y en a plusieurs qui sont sur des terrains synthétiques du côté de Miami, c'est sûr que ça pourrait être très nocif ou néfaste pour une remontée au classement du côté de Miami. À voir, mais... Ouais, vas-y.
Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi, j'étais juste j'approuvais.
Approuvé. Je vois. Ce que je disais aussi, c'est que l'effectif autour de Messi... Il augmente le niveau de jeu des autres autour de lui. Je ne sais pas si je connaissais aucunement Robert Taylor, là, mais il est fantastique depuis que Messi est arrivé. Il combine avec lui. Encore une fois, hier, il n'y a pas de passe décisive, mais c'est lui qui a amené l'action dans la surface de réparation. Je pense qu'il y a 3 buts depuis que Messi est là. Joseph Martinez a très bien combiné avec Messi sur les 2 buts hier. Donc, puis il a marqué un penalty. Donc, Messi rend les gens autour de lui. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact de Sergio Busquets aussi en milieu de terrain, c'est incroyable. Il se retourne des fois, puis on dirait qu'il est surpris de ne pas avoir de pression sur lui quand il fait son pivot, parce qu'il y a tellement de terrain devant lui pour faire une belle relance. On l'a vu plusieurs fois en faire vers Messi ou vers Taylor, Busquets. Donc, l'importance qu'il a, Busquets, en milieu de terrain, même s'il ne couvre pas beaucoup de terrain, même s'il est très lent, sa vision de jeu, ses récupérations, ses relances, c'est tout un atout pour Miami. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
Encore une fois, Busquets qui passe dans l'ombre, même dans la MLS. Mais écoute, c'est seulement un des joueurs les plus estimés de sa génération, un des meilleurs milieux de sa génération. Puis pour moi, il va quand même me faire une carrière à MLS.
Ouais. Très d'accord avec ça. Et Jordi Alba, à suivre, il a joué que quelques minutes, mais Jordi Alba, lui aussi, c'était un joueur au Barça qui était capable de trouver Messi très souvent. Je pense qu'il y a quelque chose comme 23 ou 24 passes décisives sur les buts de Messi au Barça à Alba, ce qui est une grosse statistique pour un défenseur latéral. Mm-hmm. Donc, ça va être à suivre tout ça avec grand intérêt pour la suite de Miami en MLS et en League Cup. Et aussi, Ludo, tu as parlé de l'Arabie Saoudite tantôt. Grosse question là, qui est sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Avec tous les transferts qu'il y a eu en Arabie Saoudite, est-ce que l'Arabie Saoudite est une meilleure ligue que la MLS, selon vous? Parce que tu regardes, on a clairement augmenté la qualité en Arabie Saoudite avec tous les transferts qu'il a fait. Je pourrais en nommer tantôt. Mais question comme ça, est-ce que parce que avant l'arrivée de Messi puis l'arrivée de tous ces gros joueurs en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, selon une liste de je ne sais plus qui, mais qui était assez crédible, était top 40 peut-être au monde et la MLS était 16-17e en termes de ligue au monde.
Ouais.
J'ai envie d'avoir votre avis. Là. Est-ce que ça débalance tout ce beau classement-là, selon vous, les arrivées massives de transferts en Arabie Saoudite?
Bon, moi, je vais répondre tout de suite. Je pense qu'il est trop tôt pour savoir ça, en fait. Parce que à l'heure actuelle, t'es la majorité des joueurs. T'es, en ce moment, c'est le début de la saison en Arabie Saoudite. Ouais. Donc là, on voit ce qui va se passer. Puis, tu sais, à ce moment, je pense que vraiment, mon opinion, c'est que c'est trop tôt. C'est juste trop tôt. C'est pas compliqué. Puis, tu sais, je pense que à l'heure actuelle, c'est encore la MLS, je crois. T'sais, si on regarde le classement, si on regarde la qualité des équipes et tout, je persiste à croire que c'est quand même la MLS qui est au-dessus de l'Arabie Saoudite. T'sais, l'Arabie Saoudite, c'est la majorité des joueurs ou presque, surtout des joueurs qui sont en fin de carrière, là. Donc, c'est des joueurs qui...
Il y a quand même des cas surprenants, tu sais.
Ouais, il y a des cas surprenants, tu sais. Évidemment, il y a des cas comme Ruben Neves, il y a des gars comme Jota aussi, le
papa de Seco Fofana, comme Sadio Mané, qui sont début fin vingtaine, début trentaine. Là.
C'est ça, tu sais. Puis ça, c'est d'autres cas qui sont particuliers. Mais tu sais, évidemment, tu sais, si on parle des cas comme Cristiano Ronaldo, Benzema, N'Golo Kanté, tu sais, c'est des joueurs qui ont tout prouvé, qui n'ont plus rien à
même Kanté aurait pu avoir encore plusieurs...
Mais Kanté a eu beaucoup de blessures. Fait que ouais. Ça, c'est la différence. Depuis 2 ans, il était extrêmement blessé. Donc, je pense que puis il avait tout prouvé. Là, mais en tout cas, pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est, comme je t'ai dit, c'est trop tôt pour faire un constat sur quelle ligue est meilleure que l'autre. Moi, c'est vraiment ça que je pense.
Ben moi, je serais quand même tenté à dire l'AMS seulement parce que malgré l'arrivée de tous ces joueurs-là, Le talent local, le talent homegrown, est meilleur en Amérique qu'en Arabie Saoudite. On ne s'en cache pas.
Très d'accord. Surtout
que ça prend quoi? 3-4 joueurs par équipe en moyenne de nouveaux arrivants en Arabie Saoudite.
C'est dans les gros clubs riches. Là, il y a plein
c'est en Arabie Saoudite.
Presque pas de transfert d'Europe. Là.
C'est ça va être des petits clubs... qu'un niveau ne va juste pas suffire.
Comparativement à l'AMS,
qui reste quand même assez compétitive, qui a quand même assez de parité, je trouve, mettons, dans tous ces clubs.
Je suis très d'accord avec ce que tu dis, Tom. Oui, je pense que pour le savoir, comme Dou a dit, il va falloir attendre. Mais comme tu l'as dit, le talent local, les joueurs qui sont à MLS depuis plusieurs années, comparativement à où en fait qu'on recrute en MLS, on recrute des joueurs de partout un peu dans le monde, on recrute des joueurs de l'Amérique du Sud, quelques-uns d'Europe. Il y en a plusieurs également américains, canadiens qui se développent et deviennent très bons. Des joueurs assumés, importants pour leur équipe à MLS. En Arabie Saoudite, c'est presque juste des Saoudiens, outre les transferts qu'on a fait dans cet été, puis l'autre durant la période Mercato. Donc, comme Tom disait, j'ai l'impression qu'il y a plus aussi cette parité-là que avec les Al Hilal, les Al Ahly, les Al Nassr, les Al Ittihad qui sont allés chercher plein de gros joueurs qui vont être au top du classement probablement, mais que les équipes qui n'ont pas été dépensées ou allées chercher des gros joueurs-là, ça vont rester en fond de classement puis ça va pas avoir beaucoup de parité, j'ai l'impression, dans cette Ligue d'Arabie Saoudite. Tandis qu'à MLS, on a une parité où est-ce que à chaque année, on a quasiment des nouveaux gagnants. À chaque année, on a des nouvelles équipes qui font les séries éliminatoires. Cincinnati est une des meilleures équipes d'MLS l'an passé, puis dans les dernières années, ça n'allait pas bien pour Cincinnati. Je pense pas que tu as un club en Arabie Saoudite qui peut finir dernier cette année puis être premier l'an passé avec toute cette parité-là qui ne semble pas avoir, mais en même temps, c'est pas commencé du côté de l'Arabie Saoudite. Ça va être vraiment à suivre. Puis là, on parle de transfert en Arabie Saoudite, les gars. Juste en nommer quelques-uns. S'il y en a que vous voulez commenter, vous le direz. Moi, j'en ai en tête. Mais bref, Ruben Neves à Al Hilal, on l'a nommé. Koulibaly à Al Hilal également. Milinkovic-Savic à Al Hilal. Du côté de
Al Nassr. C'est surprenant, celle-là.
Oui, Koulibaly ou Milinkovic-Savic?
Milinkovic-Savic. Moi, je trouve celle-là est très surprenante.
Attends, comment tu dis?
J'ai de la misère à dire son nom. On va passer.
Milinkovic-Savic. J'ai hâte qu'on parle de Liverpool.
Un autre jeune joueur, le Milinkovic-Savic, jeune joueur dans la vingtaine avancée, je pense, qui va en Arabie Saoudite quand il aurait pu continuer en Europe. Du côté d'Al Nassr, on a Brozovic, on a Seko Fofana. Seko Fofana, grosse saison à RC Lens. Moi, je pense qu'il aurait pu aller dans un excellent club d'Europe, décider d'aller en Arabie Saoudite à la place. Sadio Mané, bien sûr, qui son aventure est terminée au Bayern. Du côté de Al-Ittihad, on a Jota. On a bien sûr Benzema, Kanté, qu'on savait déjà. On a Fabinho aussi du côté de Al-Ittihad. Donc, le milieu de Liverpool, on a ajouté Szoboszlai et McAllister, mais on perd Henderson et Fabinho. Donc, Henderson à Al-Ittihad. Et du côté de Al-Ali, Riyad Mahrez, Bobby Firmino et Edouard Mendy. Donc, ces 4-5 clubs-là que je viens de nommer là, se sont grandement améliorés, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des signatures là-dedans, les gars, que vous voulez commenter du côté de
Henderson, je pense que le fait qu'il s'en va en Arabie Saoudite, c'est assez hypocrite de sa part. Pour ceux qui ne savent pas, il a pendant longtemps été défendu les droits des minorités LGBTQ en Angleterre et dans le monde. Et là, s'en va jouer en Arabie Saoudite.
Rejoindre Steven Gerrard. Il va rejoindre Steven Gerrard.
Exactement. Ou, pour ceux qui ne savent pas, l'Arabie Saoudite,
au niveau des femmes,
LGBTQ, c'est illégal. Donc c'est très hypocrite de sa part. D'ailleurs, il a reçu beaucoup de backlash de ce côté-là dans les médias.
Mais je ne sais pas si vous avez vu sa présentation faite par Al-Ittihad.
Non.
C'est une vidéo de lui avec un brassard de capitaine aux couleurs LGBTQ, bien sûr, quand il était à Liverpool. On a mis on a caché le brassard de capitaine aux couleurs LGBTQ sur la vidéo. Là, c'est vraiment évident que c'est ça qu'on a voulu cacher.
Oh my God!
Et, écoute, c'est bien normal en Arabie Saoudite, mais c'est totalement autre chose quand tu regardes une perspective occidentale. Puis je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté hypocrite là-dedans, Tom, c'est vrai, même si Anderson vient de Liverpool, mon club de cœur. Tu as tout à fait raison. La réponse que j'ai à donner pour moi, c'est c'est ça, l'Arabie Saoudite. Et je ne sais pas c'est qui a dit ça, mais ça a sorti dans les médias une courte. J'essaie de me rappeler, mais bref, il a dit « on joue pas pour la passion, on joue pour l'argent ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette courte-là, puis qui l'a dit.
Ouais.
Mais c'était qui, ça m'échappe, mais c'est un joueur qui a joué en Europe. Fait que, bref, je pense que c'est Alex Telles. Bref, Alex Telles, il y en est un autre.
Ouais, qui s'en va lui aussi en Arabie.
Al Nassr.
Ouais, Al Nassr. Il y a Saint-Maximin aussi qui s'en va.
Ça, c'est une déception totale. Ce gars-là avait tellement un talent fou, mais il y a une paresse. Il y a une paresse que moi, ça me rend fou. Si j'avais 10% de son talent, yo, je m'entraînerais tous les jours, mais je ferais en sorte que comme je resterais en première année, puis genre j'essaierais de devenir le meilleur joueur au monde. Mais ça, c'est une déception totale. Il peut dire adieu à l'équipe de France, il peut dire adieu à sa une grande carrière européenne. Malheureusement, ça, c'est le seul que je trouve ça triste qu'il part en Arabie Saoudite. Le reste, c'est comprenable.
Comprenable. C'est l'argent ta priorité, parce que moi, des joueurs comme Seko Fofana, comme Milinkovic-Savic, même comme Mané, là, je me dis Mané, là, il peut encore être dans les meilleurs attaquants au monde. Là.
Ouais, mais moi, tout le monde en a parlé en retour en force. Mais tu sais, le fait que Sadio Mané, c'est un gars qui offre beaucoup à son village au Sénégal, puis il veut vraiment aider, c'est comme j'ai dit, son village à construire des écoles, à construire
des hôpitaux, des établissements de qualité.
Il veut vraiment aider ses proches. Fait que moi, je comprends 100% le fait qu'il décide d'aller en Arabie Saoudite et qu'on le sait qu'au final, il va aider à l'extérieur du terrain. Fait que moi, je comprends sa décision parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui font ça.
De ce point de vue-là, tu as raison.
Il a déjà gagné la Champions League, il a gagné une Premier League, il a gagné la Bundesliga. Je sais pas si le Bayern a gagné la DFB Pokal aussi, mais en tout cas, il a gagné.
Il est deuxième en Ballon d'Or aussi, il l'a passé. Ça aussi, c'est pas négligeable. Oui. Il a passé. C'était pas la saison exceptionnelle de Karim Benzema en 2022. Peut-être que c'était Sadio Mané le Ballon d'Or 2022, hein, qui sait.
Mm-hmm.
Donc, c'est quand même fou, là.
Mais oui, je suis d'accord pour des joueurs comme Fofana, comme Yota, c'est...
Koulibaly, désolé, Koulibaly peut encore être un des meilleurs défenseurs.
Ouais, Koulibaly, oui, malgré sa saison de succès à Chelsea. Hein. Oui,
écoute, le potentiel n'est pas disparu, là, Koulibaly. Là.
Non.
Puis souvent, les défenseurs à 33, 34 ans sont encore excellents, tu sais, fait, bref.
Je pense que aussi, bien sûr, être pas dans son cas, je pense qu'il s'était fait, tordu à ACL la saison dernière. Quand tu détruis le genou à son âge, c'est difficile de revenir à un niveau top aussi. Là.
Tout à fait. Bon, là, il y a quelque chose qui m'a popé qu'on doit absolument parler en parlant de l'Arabie Saoudite. Le cas Kylian Mbappé, messieurs.
Oui!
On l'avait pas mis dans le planning hier, mais bref. Mbappé, donc, si on peut résumer rapidement la situation, est sous contrat juste avec le PSG jusqu'en juin 2024, était censé continuer à prolonger avec le PSG en fait, il avait dit au PSG qu'il pouvait peut-être prolonger avec une année d'option en 2025, mais là, il a dit au PSG, je ne prolongerai pas, je vais faire ma dernière année de contrat au PSG et partir librement pour très probablement le Real Madrid en 2024. Le PSG a dit non, si toi tu pars, on veut beaucoup d'argent pour toi, donc tu pars cet été et pas gratuitement. Et là, Mbappé fait non, moi je pars dans un an et gratuitement. Et le PSG fait, on va pas faire ça. Donc, essaye de le vendre. On a reçu une offre d'Arabie Saoudite. C'était, rappelez-moi le montant, là, c'était
700 millions.
C'est
1 milliard de salaire.
En salaire, c'est 700 millions?
Non,
Le transfert était 700 millions, OK.
Au-dessus d'un milliard de salaire pour un an.
Ouais, écoutez, donc c'est astronomique. Le Mbappé n'est pas intéressé à aller jouer un an en Arabie Saoudite. Et là, ça pourrait être une saison blanche, tout simplement, du côté d'Mbappé, parce que s'il ne part pas d'ici la fin du mercato, le PSG, moi, ce que je ferais, en étant PSG, je comprends, tu es comme, tu nous as fait chier, si vous me permettez l'expression, on ne fait pas jouer de l'année. Mais en même temps, est-ce que le PSG va être compétitif sans Mbappé? Parce que là, c'est de l'argent qu'il ne peut pas recevoir pour dépenser plus. Donc, toute une saga assez hilarante qu'on n'est pas un. Frustrante si t'es un fan du PSG, mais assez cocasse si t'en es pas un. Votre avis là-dessus. Là.
Je vais y aller. C'est bon. Première chose, moi je trouve que c'est extrêmement brillant de la part de Kylian Mbappé. Il sait sa valeur, il sait comment se vendre, puis il sait que. En ce moment, il se retrouve dans une position où c'est lui qui a le contrôle de sa destinée. C'est pas compliqué. Il sait que.
Tu peux vraiment jouer une saison blanche quand tu es
dans ton mais lui, peu importe, il va trouver un moyen, il va s'entraîner et tout. Puis,
mais tu veux jouer des matchs.
Ouais, mais moi, je pense que le PSG, à un moment donné, va se dire OK, là, ça va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Genre, soit Kylian Mbappé ou soit le PSG vont trouver
une
entente. Là, puis au final, Mbappé va peut-être jouer pour le PSG pour la première saison 2023-2024. Mais moi, l'affaire que je trouve. Ça, je pense que vous autres, vous êtes un peu plus jeunes pour l'avoir vécu, pour avoir ce souvenir-là. Mais Cristiano Ronaldo, son transfert de Manchester United au Real Madrid en 2009, c'était une situation qui était extrêmement similaire à celle d'Mbappé. Cristiano Ronaldo, je pense que son contrat s'est terminé, je pense, en 2000, l'année suivante, en 2010 ou peut-être 2011. Mais ils n'étaient pas sûrs si Cristiano Ronaldo voulait rester à United et tout. Puis c'était un secret polichinelle que... Que les gens savaient que Cristiano Ronaldo voulait aller au Real Madrid parce que c'était le rêve de sa mère qui, un jour, y a joué au Real Madrid. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, il y a une saga où que Ronaldo a fait sa saison. Puis ça, je parle de la saison après son premier ballon d'or. Ou qu'au final, 2009, où que finalement, il y a quand même PL avec Manchester United, perdu en finale des champions contre le Barcelone. Bref, il fait quand même une bonne saison. Il fait deuxième au ballon d'or, finalement, derrière Messi. Puis, au final, il a été transféré à 94 millions d'euros. À l'époque, était le plus gros transfert jamais enregistré à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est très similaire parce que Kylian Mbappé a à peu près le même âge que Cristiano Ronaldo avait à ce moment-là. tu sais, t'arrives à 24 ans, t'es peut-être considéré comme top 3 ou peut-être le meilleur joueur au monde selon plusieurs personnes. Puis, t'as fait des exploits, t'as remporté une Coupe du Monde, t'as presque été le même meilleur joueur.
Par contre, il n'y a pas de pédigré que Ronaldo avait.
Non, c'est ça, il n'y a pas de pédigré, imagine-toi donc. Mais on dirait qu'il y a plus de pouvoir que CR7 à ce moment-là. Certains vont me dire que c'est notre époque. Mais moi, c'est ça que je trouve similaire. Je trouve que c'est très similaire à la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United à l'époque. Puis en plus, tout ça pour aller à la même place qui est le Real Madrid.
Mais,
c'est ça que je voulais acheter.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le PSG va se rendre à l'évidence en cours de saison, puis soit d'ici la fin du mercato, au maximum début de la Ligue des Champions.
Parce que la liste pour la Ligue des Champions, c'est le 5 septembre.
Oui, c'est
ça. Si tu ne mets pas dans ta liste le 5 septembre, il ne jouera pas en Ligue des Champions.
Mais ça, il va comment? Je pense qu'il revient au club Gros Max le 5 septembre, début de la Ligue des Champions. Parce que si le PSG veut espérer avoir une chance de faire quelque chose cette année à NDC, ça va prendre Kylian Mbappé, assurément. Il pourrait gagner la Ligue 1 sur moi sans Mbappé. L'objectif pour le PSG, ça reste avec les champions. Ouais. Puis là, ben, ils ont besoin d'Mbappé.
Ouais, mais ils ont été chercher quelques joueurs du côté du Paris Saint-Germain. Là, il y a Ousmane Dembélé qui arrive bientôt du côté du Paris Saint-Germain. Mais tu as eu Marco Asensio. C'est ça. Puis aussi, il y a eu plusieurs rumeurs qui disaient qu'ils étaient intéressés à aller chercher Bernardo Silva à Manchester City. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça ne se réalisera pas?
Moi, j'ai vu que Pep Guardiola et Manchester City avaient classé Bernardo Silva comme étant intransférable, donc ils voulaient le garder.
Ouais, ils voulaient le garder peut-être, mais il y a eu des rumeurs par rapport à ça. Puis écoute, le mercato n'est pas encore terminé. Fait que peut-être qu'il va y avoir d'autres possibilités de joueurs qui vont venir du côté du Paris Saint-Germain. Puis tu as Neymar qui techniquement revient de blessure. Ouais. Donc, ouais. Il va être encore là. Puis Neymar, il a dit... Il a dit que les gens ne m'aiment, que les gens aiment, qui... non, attends, c'est bon, je vais répéter. Que les gens m'aiment ou non, je vais quand même rester au PSG puis je vais faire ma saison au Paris Saint-Germain. Donc, tu sais, ils essaient d'un peu de pallier l'absence ou le futur départ de Kylian Mbappé en allant chercher d'autres joueurs qui sont de moins bonne qualité que Kylian Mbappé, c'est clair, mais des joueurs qui, à court terme, peuvent t'aider. Fait que ça, on voit déjà que le PSG essaye de planifier l'après Kylian Mbappé. Mais là, est-ce que Kylian Mbappé reste? Est-ce que Kylian Mbappé reste pas? Ça, c'est une autre question. Est-ce que Kylian Mbappé va aller au Real Madrid? Ça aussi, ça va être intéressant parce que le Real Madrid, techniquement, pourrait venir se faufiler puis au final, obtenir Kylian Mbappé pour moins d'argent que prévu. Parce qu'il reste un an de contrat à Kylian Mbappé. Donc, c'est plus facile d'obtenir un joueur avec un moins gros prix de transfert. Puis peut-être que ça va être profitable pour Kylian Mbappé et le Real Madrid au final.
Si t'es Real Madrid, t'essaies que... Ben, je pense que le but premier, c'est de l'avoir gratuit dans un an. Cependant, si tu signes gratuit dans un an, il va signer une grosse prime à la signature. Ça, c'est certain. Là. Ça va être très cher. Donc, est-ce que tu te dis, bon, ben, on peut essayer de faire un deal peut-être moindre avec le PSG pour que le PSG obtienne de l'argent et soit content quand même. Puis là, à ce moment-là, puisqu'on a payé un montant de transfert pour Mbappé, bien, peut-être que la prime à la signature va être moins élevée. Donc, ça pourrait peut-être être gagnant pour le Real d'aller chercher dès cette année. Surtout que là, on essaie, dans les matchs amicaux du côté du Real, on essaie de faire jouer Rodrigo et Vinicius en point d'attaque, mais sans qu'aucun des deux soit vraiment un vrai neuf. On a Joselu qui est pour moi pas une solution comme titulaire du côté de Madrid. Là. Fait que ça va être intéressant de voir ce côté-là. Puis, dernière chose sur le comportement d'Mbappé, toi, tu trouves qu'il joue intelligemment, d'où peut-être, mais en même temps, je trouve que quand il a re-signé au PSG, il a dit « Ah, c'est mon club de cœur, c'est ma maison, j'aime jouer ici, j'aime ce club. » Et puis là, d'agir comme ça et de les faire chier complètement, comme j'ai dit tantôt, puis de décider de que, ah ben, je vais partir, mais gratuitement, je vais rien vous rapporter du tout, alors que j'avais dit que soit je partirais puis que vous me vendriez, ou que je re-signerais puis je prolongerais mon option en 2025. Ben, finalement, c'est complètement pas respectueux envers le PSG, tant qu'à moi, le comportement de Mbappé.
C'est pas que...
Comment?
Chose behind the scenes.
Peut-être. Il y a des malentendus, mais bref. Ensuite, en plus, il reçoit une prime de loyauté de 60 millions vu qu'il est resté plus loin que le 31. Tu sais, c'est complètement ridicule, une prime de loyauté alors qu'il sait depuis des mois qu'il ne reviendra pas.
Ça fait longtemps que c'est demain au PSG. T'as le PSG, il faut se rappeler, là, c'est le club qui paye ses joueurs pour aller saluer, saluer leurs partisans en fin de rencontre. C'est quand même fou, là. Genre, les Neymar, les Mbappé, les Marquinhos, l'équipe MB de ce monde, ils sont payés à aller saluer les partisans à la fin de leur rencontre. C'est pour vous dire à quel point que ce club-là, pour moi, c'est un cirque, là, au final. Là.
Dans les bons clubs où la base partisane et les joueurs s'entendent bien, ça se fait tout seul, ça. T'as pas besoin de payer tes joueurs
pour et ça. Voilà.
Fait que, bref, moi, le comportement d'Mbappé m'énerve un peu, là, je vous le cacherai pas, parce que je suis comme, si tu veux être loyal envers ton club pour de vrai, t'acceptes pas une prime de loyauté alors que tu es très bien que tu t'en vas, puis t'acceptes de te faire vendre au lieu de partir librement quand tu sais que pour ton club que t'aimes tant, ça serait ça la meilleure solution pour eux de recevoir de l'argent pour toi. Fait que, tu sais, s'il ne veut plus jouer au PSG puis il veut pas être là en 2025, fine, parfait, mais pourquoi est-ce que tu veux pas être vendu cet été d'abord? Bref. Parce que l'entente est déjà toute faite avec le Real selon le PSG, puis j'ai tendance à penser que c'est vrai. Là. Fait que, en tout cas, fin de cette saga-là, on a plusieurs choses encore à parler. D'ailleurs, bon, les transferts intra-Europe, là, en laissant de côté l'Arabie Saoudite, parce qu'on en a déjà parlé, le plus gros transfert qu'il y a eu jusqu'à maintenant cet été, c'est du côté d'Arsenal et du club de Thomas, je vais te laisser en parler. Mais Declan Rice qui quitte West Ham pour Arsenal, selon Transfer Market, c'est 116 millions, là, c'est approximatif.
En euros, 120 millions de livres anglais, ça.
105 en livres, ouais, exact. Ouais. Fait que, bon, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon Tom? Declan Rice, un ajout pour toi au milieu de terrain? Vas-y, je te laisse
la parole. Écoute, Declan Rice, c'était un peu la pièce manquante d'Arsenal. On a appris qu'en passé, ce qui manquait beaucoup aux Gunners, c'était de la profondeur, surtout que là, t'as la Ligue des Champions qui s'en vient pour la première fois depuis 2017. Et également, ça prenait quelqu'un de grande qualité au milieu avec la ville de Declan Rice. Je pense que c'est la pièce manquante. Est-ce que c'est trop payé? Pas autant que Dude pense, mais je m'attendais plus à un transfert autour des 90-95 millions de livres, pas 105, mais quand tu penses qu'avec l'intérêt de City qu'il y avait, c'était sûr que le prix allait gonfler. Et honnêtement, je pense que il serait capable d'amener le 7% manquant à Arsenal pour remporter la Ligue, surtout avec les ajouts en défense qui ont été faits avec Timber. Ça va rajouter de la profondeur en défense, ce que les gars notamment quand Saliba est tombé au combat l'an dernier.
Jurrien Thébert, très bonne addition.
Kai Havertz, c'est autre chose, par contre.
Kai Havertz, écoute.
Kai Havertz, on peut en parler tout de suite. Havertz, c'est 75 millions quand même. Là.
Ça reste à voir.
Ouais, c'est
je suis sceptique aussi, 75 millions pour Michel.
Je suis très sceptique. Mais écoute, moi je te dis, c'est moi, je doute pas des capacités de Declan Rice. Moi, c'est son prix que je trouve ça aberrant. Cette taxe anglaise-là, je ne la comprends pas, je ne la comprendrai jamais. Ça, il faut m'expliquer. Comment ça se fait qu'un joueur comme Jude Bellingham, qui a été nommé meilleur joueur de Bundesliga, a été vendu moins cher qu'un Declan Rice au Real Madrid, alors que, je viens de le mentionner, meilleur joueur d'un championnat qui est un des meilleurs championnats au monde qui est à Bundesliga, alors que Declan Rice, je m'excuse, mais il n'est pas le meilleur milieu défensif de Première Ligue. Il est peut-être top 3, peut-être 4 à la limite.
Il y a Rodri avant lui, clairement.
Rodri et t'as Casemiro avant lui aussi.
Avant lui, effectivement.
C'est ça. Fait que, t'as pas le meilleur profil, puis il y a beaucoup qui vont dire ouais, il y a 24 ans. Jude Bellingham vient d'avoir 20 ans, puis était dans le même jour de Bundesliga avec
une capacité à long terme. Je pense que du côté de Bellingham aussi, ce qui n'a pas fait son prix, c'est à cause qu'il allait seulement au Real. Il y a aucune autre équipe qui a embarqué
Il y a eu un peu de concurrence au début. Là.
Ouais. Liverpool s'est retiré au mois de mars, je pense.
Ben, plus tard que ça, mais je suis d'accord qu'à la fin, c'était clair que c'était le Real. Tu as raison. Là.
Ouais. Mais tu sais, juste pour dire que moi, je trouve que c'est aberrant. Declan Rice est un excellent joueur, mais tu sais, je m'en ai dit, quand tu es un joueur, quand tu es un bon joueur de première ligue, puis tu joues en équipe d'Angleterre, ton prix de transfert est double, voire triple. Mm-hmm. On l'a vu, mais ça, les leçons, on les apprend. Je sais pas, je comprends pas. Est-ce que les clubs, ils apprennent pas de leurs leçons? T'sais? Un Grealish qui a été bon cette saison, encore une fois, c'est aberrant son prix. Un Maguire, quand on s'en fait parler.
Calvin Phillips en dernier.
Calvin Phillips a été payé à, je crois, à plus de 100, je pense, c'est.
Ou pas, je pense que c'était autour de 100 millions.
Non. Autour de 100 pour chauffer le banc, man. De City.
Je pense qu'il y a 3 apparitions cette saison.
C'est terrible. C'est juste quand t'as trop d'argent.
C'est ça. Fait, moi, c'est juste ça que je dis. Je dis pas que Declan Rice va pas être important pour Arsenal. Une belle addition pour Arsenal. Mais tu sais, avec un prix de transfert comme le sien, il faut vraiment qu'il prouve que les attentes qui sont élevées envers lui soient fondées au final. Parce que sinon, on va faire comme Paul Pogba, dans le sens où peut-être Maguire à Manchester United, qu'on a vu qu'il était des joueurs qui ont été achetés à des gros prix.
Puis 49 millions, c'est pas si pire, Calvin Phillips.
Calvin Phillips?
49, ouais, dans ma tête, c'est même plus.
Moi, je pensais que vous avez plus, c'est juste.
Mais reste que 49 pour 3 apparitions, c'est trop. Là.
C'est trop, ouais, là, c'est ça. C'est... Mais bref, moi, c'est juste le prix moi, que je trouve aberrant. Là, au final, pour un joueur qui est bon, mais qui est loin d'être le meilleur à sa position.
Là. Ouais, mais bref. Oublions le prix, là, tactiquement. Là, tu as un milieu de terrain avec Declan Rice, Martin Odegaard, Thomas Partey. Tu as ajouté Kai Havertz. Arsenal va être très menaçant là, pour
l'instant. Jorginho aussi au milieu.
Jorginho aussi. Jorginho, pour moi, ne sera pas titulaire dans ce milieu-là, mais
c'est
un bon élément de profondeur, ça c'est sûr.
Ouais.
Fait que, on va faire attention à Arsenal thème l'an prochain. Puis tant mieux pour eux qu'il y ait de l'argent. Écoute, ça permet d'avoir un
enfin, enfin, en fait. Ouais,
oui, enfin.
Enfin, parce que, tu sais, il faut se rappeler, là, depuis qu'ils ont déménagé à l'Emirates Stadium, t'sais, ça a pris beaucoup d'années pour payer ce stade-là, donc ils ont un peu sacrifié l'argent qu'ils avaient avant pour les transferts. Puis pendant des années, ils ont misé sur, on connaît un peu cette formule-là à Montréal, là, sur le fait de former des joueurs, puis après ça, les revendre. Plus cher, ouais.
Ils ont vraiment commencé à dépenser seulement en 21-22 avec la fille Ben White.
Ben, 40 millions. C'est ça. Ben, ils ont essayé d'autres choses aussi. Ils ont essayé un peu vers le début, milieu des années 2010, avec les transferts à Ozil, Sanchez.
Giroud.
Giroud, ça n'a pas été si cher que ça comparé à ce que je viens de nommer. Après ça, c'était juste mauvais. Là, la Cassette. Aubameyang, c'était pas super au départ, mais ça a juste mal terminé.
La Cassette aussi, c'est... La Cassette,
le pire, on va s'attendre là-dessus, c'est Nicolas Pépé à 80 millions. Ça, là, c'est le meilleur.
D'ailleurs, Nicolas Pépé, il s'entraîne avec Jack Wilshere.
Tout le monde le voulait, mais tu sais,
tout le monde le voulait, mais pas à ce prix-là.
Ben, Nat, je m'arrête bien d'être prêt à dépenser 75.
Techniquement, il est encore Arsenal, hein? Il était prêté la semaine
dernière. Il était en prêt à Nice.
C'est ça, il était en prêt à Nice. Okay. Là, mais je sais pas s'il est revenu de son prêt, mais il était en prêt.
Ouais, il est revenu.
C'est ça. Fait que techniquement, c'est un joueur d'Arsenal, mais en tout cas, c'était triste.
On salue Nicolas Pépé, mais on va pas passer plus longtemps sur son cas. Alors, on peut parler de Liverpool maintenant, par contre. Si on parle de milieu de terrain et d'addition. 2 additions à un prix un peu plus bas du côté de Liverpool. Szoboszlai, qui est un profil peut-être créatif, offensif, qui arrive à Liverpool pour 70 millions. Et McAllister, donc, qui joue à Brighton précédemment, qu'on a connu avec la Coupe du Monde, excellente Coupe du Monde de sa part, pour un beau 42 millions. Là, ça, c'est ce qui revient à peu près le même prix que Rice, mais pour 2 joueurs. T'sais. Donc, de ce côté-là, oui, Rice est une très belle addition du côté d'Arsenal, mais j'aime beaucoup les additions que Liverpool ont faites en mettant le côté biaisé de côté.
Tu l'as parfaitement mentionné, c'est Liverpool qui s'est rendu compte l'an passé qu'ils avaient un gros problème au milieu de terrain, puis qu'ils ont décidé juste de tout reconstruire ou presque. T'as le départ de joueurs forts de ton milieu de terrain. Jordan Henderson, Fabinho qui vient de quitter, t'as un vieux James Mena qui est parti cette saison aussi, qui était souvent utilisé également. Bon, t'as Thiago Alcantara, qu'est-ce que t'as dit? Nabi Keita aussi qui était à bord remplaçant. Bon, t'as Thiago Alcantara qui est encore là, mais il joue jamais parce qu'il est tout le temps blessé ou presque. Fait que t'as Szoboszlai qui est pour moi, ça c'est à le voir jouer. Là. Parce que quand on le voyait l'an passé du côté de Leipzig, moi, là, ce joueur-là, j'ai des grosses attentes envers lui. Non, je ne vais pas essayer d'avoir des attentes comme Darwin Núñez, puis après ça, ça fait juste.
Attends de voir dans Darwin Núñez. Moi, je pense qu'il va connaître une bonne saison cette année.
Ouais, mais puis écoute, McAllister aussi, c'était. C'est, ça aussi, c'était. Ben ça fait plus longtemps que c'était prévu, cette signature-là. Mais écoute, deux belles additions au milieu de terrain de Liverpool. Puis écoute, ça va être un milieu de terrain qui va être très intéressant. Moi, c'est surtout ce que j'ai hâte de voir, c'est au milieu défensif, si tu viens de perdre Fabinho, c'est qui va prendre sa place?
C'est ça. Parce que là. Dans un monde idéal, on aurait gardé soit Anderson, soit Fabinho là, pour Liverpool. Parce que
Caicedo,
là,
peut-être?
Quoi? Non, on n'aura pas Caicedo, mais on a Romeo Lavia qui est dans les, dans les plans. Et lui est un vrai numéro 6. Ce qui serait une option aussi, ça serait d'aller chercher un latéral droit et de mettre Trent Alexander-Arnold en 6. Ce qui serait intéressant, je pense, tant qu'à moi.
Moi aussi,
il avait été bon milieu l'an passé.
Comment?
Il avait été bon comme milieu l'an passé.
Oui, puis c'est ça. Puis là, si on va chercher un 6, ça nous met une meilleure pierre d'assise au niveau défensif. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment une équipe centrée vers l'attaque avec Szoboszlai qui est très offensif. McAllister qui n'est pas un 6, qui est un 8, je dirais.
Ouais.
Puis t'as Salah, Núñez, Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo. T'sais, on a une équipe très centrée sur l'offensive, donc je pense que du côté de Klopp et de Liverpool, ça prendrait des signatures plus défensives, comme rajouter un centre-back pour la profondeur avec Konaté et Van Dijk, un arrière-droit pour donner de la compétition à Alexander-Arnold. Fait qu'il reste, le mercato n'est pas fini pour moi du côté de Liverpool.
Non, c'est ça. Puis écoute,
quand tu penses, tu as l'impression que ça fait 6 mois que c'est commencé, mais il reste encore 1 mois de mercato.
C'est ça qui est fou. Oh. C'est ça qui est absolument incroyable. Vraiment. Là. Puis, écoute, moi surtout, ce que j'ai hâte de voir, c'est vraiment le fait que là, Van Dijk est un nommé capitaine de Liverpool. Alexander Arnold est son adjoint. Fait que là, moi, j'ai hâte de voir si ces deux-là vont prendre la responsabilité parce que l'an passé, ça a été extrêmement difficile pour ces deux joueurs-là. Donc, là, ils ont des grosses responsabilités. Ça va être, techniquement, ça va être leur équipe à ces deux-là. Puis surtout, moi, je pense que le plan de Jürgen Klopp à long terme, ce serait que ça va être l'équipe d'Alexander Arnold. Ça va être lui le capitaine au final parce que. C'est le gars, on le connaît, là, son histoire, là, c'est le gars qui était formé à Liverpool, c'est un gars qui vient de là.
Qui est vice-capitaine avec Van Dijk.
C'est ça, qui est vice-capitaine à
après Van Dijk.
25, presque, à peut-être 24-25, avec son Arnold, il est encore très jeune, t'sais, il arrive à son apogée. Donc, c'est un gars qu'on connaît tous, ses capacités offensives sont absolument sensationnelles. Je pense, honnêtement, à part Kevin De Bruyne, je pense que c'est le meilleur passeur de la Première Ligue. Ça, c'est mon opinion là-dessus.
Longue passe,
honnêtement, il y a juste De Bruyne qui est peut-être meilleur, puis même là, je ne suis même pas sûr. T'sais,
les longues passes d'Arnold, c'est exceptionnel.
C'est incroyable. Fait, les défensivement, il y en arrache, mais ça, c'est une autre affaire. Mais comme je t'ai dit, comme tu as dit, c'est vraiment... moi, c'est mieux défensif que j'ai hâte de voir. Écoute, moi je rêve toujours à Barella. Moi, c'est surtout ça.
Mais même Barella, c'est pas un 6 du tout.
Non, je sais, mais... ça serait quelque chose que j'aimerais voir. Puis,
je pense que Szoboszlai, c'est le notre Barella, tu sais.
Ouais, je pense que c'est. Mais Szoboszlai, c'est pour moi, c'est à date, c'est peut-être depuis 2 ans, là, c'est peut-être la meilleure signature que Liverpool a faite pour l'instant. Moi, j'ai vraiment des grosses attentes d'avoir ce milieu-là. Là, qui,
70 qui est... millions, c'était peut-être un peu cher, mais genre de voir. 42 millions pour McAllister, je pense que ça va peut-être être une aubaine. Là.
Mais tu sais, seulement 23 ans aussi, Szoboszlai aussi, il faut pas l'oublier.
C'est vrai. Très bon point.
C'est ajouté, puis on le voit au milieu de terrain des fois aussi, là, ça prend du temps avant que les joueurs arrivent à leur top. Il y en a qui tombent à leur apogée à 30 ans, même un peu plus tard. On a vu plein de milieux qui sont comme ça, mais en tout cas, c'est à suivre du côté de Liverpool, c'est clairement
à suivre. À suivre, là, rapidement pour passer sur les d'autres transferts importants, Nkunku à Chelsea, Mason Mount à Manchester United, 64 millions. Ça, je la comprends pas, honnêtement.
Je la comprends pas non plus.
Premièrement, trop cher pour moi. Deuxièmement, Mason Mount a dans un effectif à peu près le même rôle que Bruno Fernandes.
Puis
Bruno
Fernandes
est clairement meilleur. Voilà! Pourquoi cette signature-là du côté de United?
C'est inutile. Tu vas chercher. T'as Bruno Fernandes qui est ton capitaine en passant.
Ouais.
C'est le capitaine de Manchester United.
Ouais.
puis tu vas chercher une Mason Mount à plus de 60 millions comme remplaçant. Hein? T'as d'autres priorités à Manchester United, non?
Puis est-ce que Fred est encore à Manu?
Oui. Ouais.
Écoute, moi, pourquoi tu vas chercher Mount? Moi, le milieu Fred, Bruno Fernandes, Casemiro, je trouve que c'est un excellent milieu. Là. Fait que genre, je comprends pas du tout ça. Pourquoi tu vas pas faire une signature offensive à la place de Rashford puis t'as à peu près personne d'autre en attaque? Sancho, ouais, et Sancho, ouais, qu'est-ce qu'il donne?
On rêve à Sancho, hein, ouais. Sancho, est-ce que Sancho va finalement redevenir le Sancho de Dortmund,
Écoute, je comprends pas cette signature-là du côté de United. Et... Sandro Tonali à Newcastle pour à peu près le même montant.
Également, du côté de United, Rasmus Højlund.
Ça, c'est la signature offensive. T'as raison, je l'avais oublié. Bon point.
Il faut pas oublier aussi le nouveau gardien de but, André Onana.
Onana.
Qui vient
remplacer. Je suis allé sur McGuire en match amical.
J'adore, man. Un gars, enfin, qui dit les vraies choses, man, à McGuire, man.
Mais Onana, très bon gardien. À l'Ajax, il était sensationnel. Puis à l'Inter Milan, il a bien fait aussi.
Ouais.
Parlant de gardien, mini parenthèse, David Raya qui sera en négociation avec Arsenal. J'ai hâte de voir ce qu'on fait avec Ramsdale. Mm-hmm. Où est-ce qu'il s'en irait? Est-ce qu'il va rester avec Arsenal? Je ne sais pas. Mais honnêtement, ça va être une situation assez intéressante.
Mais au pire du côté d'Arsenal, t'as Matt Turner.
Dax War du Revolution.
En cinquième, c'est comme cinquième
gardien. Mais aussi, autre parenthèse, aussi, hier, il y a un des meilleurs gardiens de but de l'histoire.
Oui, Gianluigi.
Qui a 45 ans. Gianluigi Buffon qui. Pour moi, c'est à peut-être. Je pense que juste Neuer que j'ai vu peut-être.
Neuer et Casillas sont en haut pour moi. Après, c'est le troisième.
Attends, tu parles de Casillas, tu le mets en haut de lui?
Je mets Casillas en haut de
lui. Non, moi, je ne mets pas Casillas en haut de lui. Hey, Buffon, je m'excuse, guys. Buffon, à 39 ans, a fini quatrième au Ballon d'Or. J'aimerais ça dire ça.
Écoute, Casillas a une Coupe du Monde, 2 euros et beaucoup de Ligue des Champions. Buffon n'a pas de Ligue des Champions. Pour moi, c'est l'élément qui fait en sorte que.
Ben, je m'excuse, mais Buffon, pour vrai, à part Cannavaro, si c'était pas Cannavaro, c'était lui le meilleur joueur d'Italie, hein, littéralement. C'est lui qui a sauvé l'Italie en 2006. Ça a été
tout à fait, mais Casillas a une Coupe du Monde où il a très bien performé aussi.
Puis pas juste ça aussi. Casillas aussi, c'est quand même admirable sa carrière. C'est un gars qui. A eu une carrière extrêmement précoce, dans le sens que c'est un gars qui rapidement a été tuteur au Real Madrid, rapidement est devenu capitaine aussi au Real Madrid, a fait sa preuve, mais aussi c'est un gars qui, à 30 ans, il était fini. Je m'en rappellerai toujours, il y a 10 ans, là, c'était Diego Lopez qui a pris sa place. Là. Diego Lopez était un bon gardien de but, mais c'était pas un gardien de but de la même trempe que Calanavas, pas Calanavas, pardon, mais Iker Casillas. Pour moi, Buffon, pour avoir vu ces deux gardiens de but-là, puis surtout avoir vu Casillas à son prime, j'ai peut-être pas vu Buffon à son prime, j'ai vu Buffon fin 2000, début 2010, puis jusqu'à maintenant. Puis Buffon, c'est un gars qui, à 37, 38, 39 ans, 40 ans, était encore l'un des meilleurs gardiens de but au monde à ce moment-là, alors qu'à 31 ans, 32 ans, Casillas était déjà presque fini à ce moment-là, puis Real Madrid s'en est débarrassé littéralement. Fait que moi, c'est pour ça que
je vais parler dessus. Il est resté jusqu'à ce qu'il y ait 34-35.
C'est ça, mais 2015. La décimale,
je te le donne au niveau de la longévité. Là, Buffon, c'est exceptionnel. Là, il est allé encore en finale de Ligue des Champions en 2017 quand il avait quasiment 40 ans. Là. Donc,
quatrième de Ballon d'Or. Moi, c'est pour moi, il était au-dessus. Puis, Casillas n'a pas été... Il n'a jamais atteint au niveau, je parle au niveau individuel, il n'a jamais été au même niveau.
Mais je ne suis pas sûr, ça. Hey, en Coupe du Monde, 2-0 d'affilée, il était très important pour l'Espagne, le Casillas. Pour le Real Madrid, avec de nombreuses Ligues des Champions, ce que Buffon n'a pas réussi à faire avec la Juventus.
De nombreuses Ligues des Champions. Ben, il n'était pas dans les 5, mais il était là au début de 2000, puis il était là à la décimale. Mais aussi, il ne faut pas rappeler.
Il était là en 2014, c'est lui qui gardait
le but en 2014. Mais c'est là que je te dis en 2014, pour dire à quel point il était fini. Carlos Ancelotti, quand il venait d'arriver, il mettait Diego Lopez qui jouait les matchs en Liga, puis Casillas seulement en Ligue des Champions. C'est là que je te dis qu'il était.
C'est pas être fini, ça, quand tu joues les matchs les plus importants, tant qu'à moi.
Ouais, puis.
Tu joues les matchs les plus importants. C'est juste c'est une rotation d'effectifs. Tu as deux bons gardiens. Tu es capable de faire jouer les deux.
Ben,
moi, je pense que Casillas, s'il jouait les matchs les plus importants, il n'était pas fini. Il était encore bon, c'est juste qu'on voulait le reposer.
Ouais, mais Ligue des Champions, moi, je trouve ça bizarre que tu fais juste jouer les matchs de Ligue des Champions, puis les matchs de Liga, tu mets un autre gardien de but. Là. C'est mon opinion personnelle là-dessus.
En tout cas, je suis d'accord avec toi pour la longévité. Buffon bat Casillas de loin. Pour ce qui est des titres et des où est-ce qu'ils sont rendus le plus loin individuellement en carrière, je pense que c'est débattable entre Casillas et Buffon. Mais assurément, Gianluigi Buffon est dans le top 3 des gardiens de sa génération. Assurément. Mm-hmm. Puis on le souhaite.
Mais même de sa génération, je veux dire, c'est facilement 2-3 générations, sa génération.
Ouais, c'est bon point. Ouais, ça a commencé. Il a commencé. Tu sais, il y a lui et Zlatan qui ont commencé dans les mêmes temps.
Ouais, ils ont commencé, je pense, il a commencé quand, je pense, en 95 ou 97, genre.
97, ouais, il a commencé avant Zlatan, c'est assez fou.
Ouais, mais on est d'accord pour dire que je mets quand même Neuer au-dessus de ces deux-là. Là.
Ben oui, Neuer pour moi, je pense, c'est le meilleur gardien de tous les temps.
Oh, ça, je suis peut-être pas prêt à dire ça.
Mais dans les meilleurs de tous les temps.
C'est dans les meilleurs de tous les temps. Mais ces trois-là sont dans les meilleurs de tous les temps.
Mais là, on a d'autres choses à parler, fait qu'on pourra faire un débat gardien dans un autre épisode. Bref. Merci Gianluigi, quelle carrière. Aussi par son style puis à quoi il ressemblait. Là. Toujours le sourire aux lèvres, toujours la petite
les cheveux
décoiffés à l'italienne. J'ai toujours un personnage, un bon vivant, semble-t-il, Buffon. Fait que bonne retraite à M. Buffon. Là, les gars, est-ce que, ouais, niveau transfert, Kim Min-jae du côté du Bayern, que je voulais adresser parce que 50 millions, toute une signature. Là, on sait ça, la saison qui est connue à Naples.
Ouais.
Onana, on l'a dit. Puis deux transferts qui devraient probablement s'en venir, mais qui ne sont pas officialisés. Il y a Gvardiol pour 90 millions du côté de Manchester City. Donc, c'était plutôt tranquille cet été. Il y a Kovacic qui est arrivé à City. Mais Gvardiol, ça pourrait être une solide addition.
C'est 90 millions. Je suis déçu.
T'es déçu? Vas-y, exprime ta
déception. Je suis déçu. Pourquoi Manchester City, man? Pourquoi?
Ils ont l'argent, ils ont le succès.
Avant ailleurs, man. Pas City. Ils ont déjà assez de joueurs.
Je vais au Real.
Mais le Real, on n'a pas besoin. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin. Ils ont déjà trois défenseurs.
City, on n'a pas besoin non plus.
Mais City, ça. City, on a encore moins. City, même. City, au final, on a plus besoin que le Real.
Tu sais, le Real a DH qui est sûr et certain. Après ça, tu as Stones qui peut jouer en 6, mais qui est en défense centrale. Je pense que tu aimerais mieux avoir quelqu'un de meilleur, surtout pour le
Real. Aki, t'as la porte.
Aki, mais Aki joue. Quasiment, il joue souvent à gauche, OK? La porte, pour moi, n'est pas un titulaire pour City. Fait que moi, je pense que City en a plus besoin que le Real, même si ils pourraient très bien gagner une autre Premier League sans Gvardiol, c'est sûr. Et l'autre transfert que j'espère qu'il va arriver parce que ce joueur fait tellement pitié depuis tellement d'années à Tottenham, c'est Harry Kane du côté du Bayern. Je lui souhaite, honnêtement, là. Je lui souhaite Harry Kane du côté du Bayern, j'espère que ça va arriver.
Il mérite de quitter les Spurs.
Ouais.
Ce gars-là a tout donné pour cette équipe-là. Il n'a jamais rien réussi. Il a eu un support minimal. Pour Harry Kane. Pour vrai, je pense que c'est la raison pour qu'il restera aux Spurs pour battre le record pour le plus grand nombre de buts
en Premier League. T'as déjà marqué ton empreinte en Premier League. On reconnaît tes exploits en jouant pour une équipe telle que Tottenham. Vas-y, va gagner des titres au Bayern. Vas-y, Harry Kane. Pars. Laisse faire le record. Pars.
Imagine. Il transfère au Bayern. Il perd la Bundesliga.
Ah, imagine.
Ça serait triste.
Les mimes sur les réseaux sociaux, ça serait excellent.
Mm-hmm. Mais ça serait tellement cool, par contre, pour la Bundesliga que ce soit une autre équipe qui gagne que le Bayern. Mais...
Ça oui. Puis BVB est passé très, très proche l'an passé. Donc, à voir. Bon. Ça faisait le tour des transferts que je voulais parler. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête. Là.
Non, écoute, ça fait pas mal de tours.
Ouais, puis là, on est assez avancé, donc on va enchaîner sur la Coupe du monde féminine de soccer. Là, il faut qu'on s'excuse aux auditeurs parce que je pense que les trois, on l'a plus ou moins checké. Puis ça, c'est dû aux horaires de match. Là. Honnêtement, je l'aurais plus regardé si on avait des matchs dans l'après-midi ou en soirée. Là, c'est à 3h ou à 6h du matin quasiment tout le temps. Désolé, mais je ne suis pas réveillé à ces heures-là. Écoute, on a fait du mieux qu'on peut quand même là, en travaillant dans le sport. On a regardé des faits saillants, mais des matchs complets, j'en ai pas vu. Là. Honnêtement, je peux juste pas me réveiller à une heure de même pour checker un match complet. Mais le Canada qui est éliminé en force de groupe, 7e mondial, le Canada, énorme déception. Dans un groupe qui était quand même fort là, avec l'Australie, le Nigeria qui est sorti un peu de nulle part. Donc, le Canada qui perd, c'est quoi? 4-0 contre l'Australie?
4-0.
C'est une défaite qui fait très, très mal, surtout que c'est la retraite de Kristen Sinclair, une joueuse de légende, vraiment. Mm-hmm. Fait, je ne sais pas si tu as un commentaire à Tom là-dessus.
Ben écoute, je pense que du côté du Canada, il manquait d'énergie, surtout en début de match. On a vu, contre le Nigeria avec beaucoup le ballon, mais on n'a pas réussi à faire grand-chose. Même chose contre l'Irlande, ça a été difficile, puis contre l'Australie, écoute, ils se sont fait déclasser. Écoute, grosse déception du côté du Canada. Sinclair aurait mérité une meilleure fin de carrière en Coupe du Monde que ça. Mais bon, je pense qu'il y a aussi tout ce qui s'est passé du côté de la fédération pendant la préparation, pendant le tournoi, ça n'a pas aidé.
Canada Soccer, ça
n'a pas aidé. Canada Soccer est une des pires organisations du monde.
Ils sont en faillite, puis c'est un certain deal qu'ils ont fait avec CBS Sports, je pense, CBS. Ouais. En tout cas, je ne suis pas beaucoup ça, mais qu'ils ont fait, puis c'était pas un bon deal au niveau monétaire, et donc là, ils ont plusieurs problèmes financiers. Ils sont pas capables de payer leurs joueuses et leurs joueurs comme convenu, donc ça va très mal du côté de Canada Soccer. Mais pour venir sur Sinclair, ce qui est vraiment très triste, c'est qu'elle n'a pas été en mesure de mettre un penalty contre le Nigeria lors du premier match.
Mm-hmm.
Si elle l'avait fait, le Canada aurait eu les 3 points et aurait été qualifié pour la prochaine phase. Donc ça fait extrêmement mal quand tu penses à ça. Puis voilà, quel grand joueur, mais qui n'est pas capable de se démarquer lors du dernier gros tournoi de sa carrière, malheureusement.
Ouais.
Fait que, bref, d'où tu voulais-tu acheter quelque chose sur cette élimination du Canada?
Ben écoute, je vous suis là-dessus. Là. C'est une déception. Puis évidemment, ben, quand tu vois qu'il y a 2 ans, elles sont championnes aux Jeux Olympiques.
Ouais.
Et sans gagner la médaille d'or. Puis que 2 ans plus tard, tu n'es même pas capable de dépasser la phase de poule. C'est quand même une déception immense pour les Canadiennes sur qui on avait beaucoup d'espoir. C'est ça quand même qui est assez pénible. Bon, je sais qu'il y a quand même un manque peut-être de profondeur qu'on voit du côté de l'équipe canadienne.
Mais la relève est quand même intéressante. Je ne connais pas bien les joueuses, là, mais ouais. Tu sais, tu as une Jordan Itema qui est une jeune qui est une bonne anaconde, je pense, dans... du côté du soccer féminin en Europe. Tu as la franco-ontarienne Chloé Lacoste, que j'ai bien aimé voir jouer. Tu as Evelyne Vien du côté du Québec en attaque aussi. En défense, tu en as qui sont là depuis longtemps. Là, Schmid, entre autres, qui est peut-être à une fin de carrière aussi. Tu as des jeunes quand même qui poussent. Mais peut-être qu'il y a un enjeu de profondeur, mais ça l'aide pas quand tu as Canada Soccer qui est dans le trouble.
C'est ça, exactement. Mais écoute, pour continuer aussi sur la Coupe du Monde féminine, écoute, la parité est incroyable là, quand même. Là. T'as l'Allemagne qui a été éliminée alors que les Allemands étaient considérés comme l'équipe favorite du tournoi.
Ouais.
Des Américaines qui ont terminé deuxième de leur groupe alors que les Américaines, c'est
puissance. Ouais, ouais. Mais c'était contre les Pays-Bas qui est une grosse nation aussi, je pense.
Ouais, si. D'ailleurs, ils vont affronter à la Suède en huitième de finale. Ça va être un excellent
match. Pays-Bas-Suède, ça va être gros comme affrontement. Ouais.
États-Unis-Suède.
États-Unis-Suède, ouais, excuse. Ça va être énorme. Suède, c'est eux qui s'étaient rendus en finale aux Olympiques contre le Canada.
Ouais, puis écoute, moi, c'est vraiment la partie. Encore une fois, le Maroc, on m'a parlé, moi, justement, juste avant l'épisode.
Ouais.
Le Maroc, qui
illustre dans les deux exploits,
dans les deux Coupes du Monde. Ça, c'est fantastique. En l'espace de 1 an, tu te rends compte que le Maroc monte en puissance. Moi, c'est quelque chose que j'admets vraiment de ce pays-là qui trouve toujours des miracles là. À se surpasser, puis à créer des surprises. Puis tant mieux, écoute, c'est bien pour le soccer féminin de voir des pays qui commencent à compétitionner avec les grosses puissances. Puis on voit les grosses puissances qui commencent à perdre un peu dans leur plume. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le soccer féminin, honnêtement, malheureusement, autre que la défaite du Canada.
Très d'accord. Puis un autre gros morceau qui est éliminé, c'est le Brésil aussi. Et Martha, Martha qui fait ses adieux dans la défaite. Je ne sais pas rendu à quel âge elle, mais... Je pense qu'elle est
plus jeune. Elle est plus jeune que Christine Sinclair.
Elle est plus jeune?
Je te dis ça tout de suite. Là. Mais Martha, c'est Martha, elle a 37 ans.
Ah, j'étais sûr qu'elle avait 41-42. OK, ben en fait, ben, tu vois, c'est deux grandes joueuses, Martha et Christine Sinclair, qui font leurs adieux avec une élimination en force de groupe.
Mais Martha est une plus grande joueuse, par contre, que Christine Sinclair. C'est,
une plus grande joueuse, tu penses?
Ouais, pour... pour le soccer féminin. Martha, c'est quand même une fille qui a gagné des ballons d'or. Ouais. C'est une fille qui...
Hey, des ballons d'or. Les ballons d'or...
Pas un ballon d'or, mais en tout cas, tu comprends, titre de meilleure joueuse de la FIFA. Là. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que le ballon d'or féminin, ça existe, je pense, depuis 2018, je ne me trompe pas. Ouais, mais tu sais, quand même, c'est une joueuse qui... je pense, les deux sont des grandes joueuses, mais tu sais, Christine Sinclair, c'est un peu plus au niveau canadien, que c'est peut-être la meilleure joueuse de soccer de l'histoire du pays. Mais... je pense que Martha est peut-être une plus grande joueuse.
À l'international, je dois dire que je ne connais pas assez les statistiques et les palmarès des deux joueuses pour me prononcer là-dessus. Mais ouais, bref, à suivre cette Coupe du Monde féminine-là, honnêtement, parce que, ben, en fait, suivez-la du mieux que vous pouvez parce que les horaires, c'est en Australie, tu sais. Fait que c'est ouais, vraiment difficile pour.
Australie et Nouvelle-Zélande.
C'est difficile, mais. Ça va être intéressant tout de même, fait qu'on va suivre ça du mieux qu'on peut. Et là, il nous reste quelques minutes max parce que moi, je dois partir. Tom, tu voulais faire un petit preview de Premier League?
Oui, ben en fait, très, très rapidement. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ça. La Premier League, en fait, qui commence la fin de semaine prochaine. Je veux juste quand même vos prédictions pour le top 4, en fait. En fait, top 5, puisqu'il il va maintenant avoir une nouvelle place. Des champions avec le nouveau format qui commence en 24-25.
C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Donc, ouais, là, la prochaine saison, on joue pour ce format-là, t'as raison. Mmh. Fait que, oui, ça va être intéressant. Bon, moi, mon top 5, je vais me mouiller, encore une fois. Bon, c'est difficile d'y aller sans avoir... Je vais y aller, j'ai pas le choix d'y aller avec Manchester City qui gagne la pire encore. Je ne peux pas. Ensuite, je pense qu'entre Liverpool et Arsenal, ça va être assez serré. Je crois en Liverpool. Arsenal a un très bon effectif. Mais juste pour mon côté Liverpool, je vais dire Liverpool deuxième. Arsenal 3. Ensuite, j'irai avec Newcastle 4. Et en cinquième position, c'est d'où tu peux y aller pendant que je réfléchis là.
Moi, je pense que ça va être. City first, encore une fois, malheureusement. Arsenal va être encore deuxième. Liverpool troisième. Newcastle quatrième. United cinquième. Moi, je pense que ça va être ça le classement.
Ah ouais, il y a United aussi, ouais. Je vais mettre United 4 et Newcastle 5.
Mais écoute, faut pas rire de ça, là, mais faut faire attention à Chelsea. Je pense que Chelsea.
Pochettino, pour moi, c'est un game changer pour Chelsea.
Écoute, l'arrivée de Christopher Nkunku et de Nico Jackson, ça.
Jackson, je ne connais pas assez, mais est-ce qu'il y a un potentiel d'être un bon buteur de plusieurs buts en Premier League?
Il a quand même été très bon en Liga l'an passé. Je pense que c'est pour Villarreal. Je ne me trompe pas. Mais ça, je suis en pré-saison, quand même des très bonnes performances.
Oui, il y a Nkunku qui est une très bonne addition. Il y a Pochettino, il y a Jackson. Mais ça va prendre aussi de la contribution du côté de Mudryk et Sterling.
Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je pense qu'il faut faire attention à Chelsea. Mais pour vrai, je pense que top 5, c'est ça. Moi, c'est ma prédiction de top 5 PL. Je pense que c'est
ça. Voilà. Allez Liverpool.
Autant que ça me brise le cœur, moi, je vais y aller avec City comme champion. Arsenal deuxième. J'ai goûté Newcastle 3e, Liverpool 4e et Chelsea 5e.
Ok, donc pas de Manu dans le top 5.
Non, pour moi, Manu, il manque de quoi. Tant que Maguire est là, il manque de quoi.
Ouais, mais c'est vrai. Est-ce qu'ils ont fait une addition en défense, Manu? Je pense pas. Hein?
Ben écoute, je pense que c'était Maguire comme remplaçant puis que. Tu restes avec la chaîne de défense défensive.
Aran, Lisandro.
Puis Lisandro Martinez. Moi, je pense que ça fait un job. Vraiment, je pense que ça fait un job en masse. Puis t'as Luke Shaw.
C'est quand même une équipe vieillissante. Moi, c'est ça.
Je pense que ça aurait fallu une signature en défense du côté de United, mais c'est pas fini.
Non, c'est ça,
c'est pas fini.
Fait que les gars, là-dessus, 1h25 de podcast, de grosses conversations sur le soccer. On a élaboré, écoute, Messi, Mbappé, la MLS, la Leagues Cup, la Coupe du Monde féminine, les transferts. Écoute, on a parlé de tout. C'était magnifique. Merci beaucoup pour votre présence. C'était très agréable de jaser avec vous. Puis on va se revoir très bientôt, je l'espère.
On va le faire plus rapidement que l'autre fois. Je pense qu'on peut être capable d'être un peu plus régulier. On va essayer.
Bien sûr. Fait que merci les gars, puis on se dit à très bientôt, mesdames et messieurs, pour un autre épisode de Jason Ballon-Rond.